L'air de la vérité, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'air de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Collectez-vous toujours très nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. Et surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen.
Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous.
C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, vous écoutez l'heure de la vérité. Je suis, je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur, le pasteur Rodrigue Genji. Et cette émission se déroule sous l'œil très vigilant de son Excellence, Sa Majesté, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, l'admirable conseiller, le Tout-Puissant, celui qui était et celui qui vient, le Seigneur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, très chères auditrices, recevez tous mes sincères et chaleureuses salutations dans le Tout-Puissant, magnifique et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit encore béni, exalté, magnifié, célébré pour ce merveilleux privilège qu'il nous accorde une fois de plus de passer un peu de notre temps dans sa sainte parole. Et c'est tout à fait normal parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Très chers auditeurs, très chères auditrices, par la grâce de Dieu, le rendez-vous de ce jour a été honoré. Et nous allons continuer notre partage concernant les fausses doctrines. Oui, nous sommes toujours dans la série des enseignements concernant les fausses doctrines. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de nous entretenir sur l'Église. Et comme promis, nous allons continuer. Nous allons parler de l'argent qui est le nerf de la guerre, les dîmes de les offrandes. Mais avant de nous intéresser aux dîmes et aux offrandes à la lumière des Saintes Écritures, nous allons une fois de plus nous intéresser à l'Église. Pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute la dernière fois, oui, nous avons vu beaucoup de choses qui se pratiquent et qui n'ont rien à voir avec la parole du Dieu vivant. Nous avons vu que beaucoup d'assemblées ou beaucoup d'églises sont beaucoup plus des entreprises commerciales que l'église du Seigneur Jésus-Christ, que l'église de la Bible. Et que beaucoup de pasteurs sont tout simplement des chefs d'entreprise et non des bergers du troupeau du Seigneur. Oui, nous allons lire par exemple dans l'épître de Jacques chapitre 2. Une fois de plus, je vous encourage à avoir un stylo et un papier ou un cahier pour noter tous ces versets bibliques et prendre votre temps après de les vérifier. Et je tiens... Oui, je disais tantôt que nous allons lire dans l'épître de Jacques chapitre 2 à partir du premier verset où il est écrit. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Verset 2, supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique et qui y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et les héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Verset 9, mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Amen. Dans cette portion de l'écriture, la Bible nous dit que ce n'est pas normal que quelqu'un entre dans une assemblée parce qu'il est habillé en habit magnifique et que l'on lui donne une place d'honneur et qu'un autre aussi entre misérablement vêtu, que l'on l'envoie au dernier banc. Et c'est ce que nous voyons dans beaucoup de milieux religieux, dans beaucoup d'assemblées. Parce que beaucoup d'assemblées sont avant tout des entreprises commerciales qui cherchent à se faire de l'argent. Dès que quelqu'un arrive ayant de l'argent, on lui donne toujours une place d'honneur. Parce que on considère cette personne comme un bon client, comme un grand client, comme on le dit vulgairement. Parce que ses poches pèsent. Et ainsi, on lui donne une place d'honneur. On peut lui donner même également un titre religieux. Le lendemain, même s'il est jeune converti, ou bien même s'il ne s'est pas converti, il peut facilement devenir même ancien diacre et autres. Simplement parce qu'il est riche. C'est normal, puisque beaucoup d'assemblées, beaucoup d'églises, ayant pour première mission d'avoir beaucoup d'argent, de se faire de l'argent, privilégient toujours ce genre de choses que de privilégier la parole de Dieu et la foi. Quelqu'un peut être pauvre, mais est rempli du Saint-Esprit, parce que la pauvreté, ce n'est pas de cette façon que nous allons juger les choses. Quelqu'un peut être pauvre matériellement et financièrement et être très riche spirituellement. Mais dans beaucoup de milieux religieux, cela ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'argent, sont les poches avant toute chose. Et je le disais déjà, que c'est ainsi que nous pouvons voir que les pasteurs et les prêtres, en général, connaissent les maisons de tous ceux qui sont riches dans leur église et ils les rendent régulièrement visite. Mais les pauvres ne reçoivent jamais de visite des pasteurs, des prêtres, tout simplement parce qu'ils sont pauvres, ils ne peuvent rien leur donner. Vous voyez, ça sont des exemples qui nous montrent clairement que beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées sont avant tout des entreprises commerciales. Oui, et si vous êtes dans ce genre d'église, et parce que vous êtes pauvre, qu'on ne vous considère pas, franchement, vous n'avez rien à y faire. Votre place n'est pas là-bas. Et nous pouvons également constater que beaucoup de pasteurs qui se considèrent comme des chefs d'entreprise avant toute chose se préoccupent beaucoup plus de l'argent que l'on donne à l'église que de la vie spirituelle des gens qui viennent. C'est ainsi que Le souci premier des pasteurs, de beaucoup de prêtres, c'est toujours l'argent qui est entré, la collecte qu'on a eue après une réunion ou après le culte. Et lorsque l'argent baisse, ils sont vraiment dans les sérieux problèmes. Alors que la préoccupation des vrais bergers, c'est d'abord le salut des âmes. C'est la vie spirituelle des gens, ce n'est pas l'argent qui les donne. Oui, c'est tout simplement regrettable. Et nous allons continuer notre partage, mais je vais résumer ceci en ce qui concerne l'Église. Par rapport à tout ce que nous avons déjà lu, bien sûr, avec des versets à l'appui, il n'y a qu'une seule Église biblique. Et cette Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout cela étant nés de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu, font automatiquement partie du corps de Christ, qui est également l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et dans une localité donnée, l'Église, c'est là où deux ou trois sont assemblés au nom du Seigneur Jésus. Ça peut être même dans une maison, pas forcément dans une cathédrale ou dans un très grand temple. Et nous avons vu que l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin que l'on lui donne un autre nom en dehors du nom qu'elle a déjà, à savoir l'Église du Seigneur Jésus. Donc tout ce que les gens ont créé, Église ceci, Église cela, mission de ceci, mission cela, ministère de ceci, tout cela, ce sont les entreprises des hommes. Dieu n'a rien à voir avec tout cela. Bien que des gens aient des intentions louables, bien qu'il y ait des chrétiens sincères dans ces milieux, la vérité c'est que cela ne vient pas de la Bible. D'ailleurs, nous avons vu que l'origine des systèmes religieux vient de Babylone, qui veut dire confusion. Genèse chapitre 11. Nous allons lire ces versets tout à l'heure. Et toujours par rapport à l'Église, nous avons vu à la lumière des Saintes Écritures que l'Église n'est pas un bâtiment. Oui, l'Église n'est pas un bâtiment. Parce que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. L'Église, c'est le chrétien lui-même, parce que c'est lui qui est le véritable temple de Dieu. Quand j'ai dit que Jésus-Christ revient très très bientôt pour chercher son Église, il ne vient pas enlever un système religieux ni un bâtiment. Il vient chercher les chrétiens nés de Dieu qui marchent selon sa parole. En fait, c'est lorsque les chrétiens s'assemblent qu'ils forment l'Église du Seigneur Jésus. Un lieu et un bâtiment ne sauraient être l'Église. Parce que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Nous avons suffisamment lu des versets dans ce sens. Par exemple, nous pouvons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 24, où il est écrit, Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans les temples faits de main d'homme. » Donc c'est tellement clair, Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Donc un temple a beau être grand, très orné, Dieu n'habite pas dedans. Dieu habite que dans le véritable temple qui est l'homme. Oui, c'est l'homme qui est le véritable temple de Dieu. Donc, les vrais serviteurs de Dieu doivent investir que sur l'homme ou sur les hommes et non sur les briques, sur les parpaings, les ciments, les cathédrales et autres. Et toujours concernant l'Église, nous avons vu que les hommes ont bâti des systèmes religieux. Jésus de son côté a dit, je bâtirai mon église. Et il utilise les hommes comme pierre vivante pour bâtir cette église. Et les hommes de leur côté sont en train de bâtir leur empire religieux. Mais ce que l'homme est en train de bâtir n'a rien à voir avec ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est en train de bâtir. Ainsi, vous pouvez faire partie d'un système religieux et ne pas faire partie de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la véritable question, c'est est-ce que vous appartenez véritablement à l'église du Seigneur Jésus? Je ne demande pas si est-ce que vous appartenez à une religion. Est-ce que vous appartenez à l'église du Seigneur Jésus? Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie de Dieu au ciel? Parce que votre nom peut être écrit dans le registre d'un système religieux, alors qu'au ciel, Dieu ne vous connaît pas. Parce qu'aucun système religieux ne sauve pas. Nous allons lire dans Exode chapitre 20, le verset 25. Exode chapitre 20, le verset 25, il est écrit. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Dieu ici avait demandé à Moïse que lorsqu'ils vont bâtir un autel de pierre, qu'ils ne taillent pas ces pierres avec le ciseau. Parce qu'en taillant, ils vont profaner ces pierres. Dieu était en train de dire ici que l'homme ne doit pas améliorer ce que Dieu a fait. L'homme ne doit pas aider Dieu dans ces choses. Donc quand les choses de Dieu sont déjà claires, on n'a pas besoin de l'aider. Les gens ont créé les systèmes religieux, ont légalisé ces systèmes religieux, en pensant que, parce que c'était apparemment bien aux yeux des hommes, que c'était aussi bien aux yeux de Dieu. Non, nous ne pouvons pas aider Dieu. Dieu est suffisamment grand et suffisamment sage. Et nous n'avons pas besoin de l'aider de quelque manière que ce soit. Bien sûr que les gens dans le système religieux se forcent de faire ce qui est bien, de faire la volonté de Dieu pour certains, de prêcher la bonne nouvelle pour d'autres, mais la vérité c'est que ça ne vient pas de Dieu, le système religieux. Les apôtres ne connaissaient pas le système religieux. Lorsqu'il fallait parler d'une église concernant une ville, par exemple, Banganté, on disait tout simplement l'église du Seigneur qui est à Banganté. Et non l'église ceci, cela, catholique, protestant, vraie église, pentecôtiste, témoin de Jéhovah qui est abandonné. Non. L'église qui est abandonnée, c'était tout simplement l'ensemble des vrais croyants qui avaient abandonné. Il n'y avait pas de système religieux. C'est lorsque l'apostasie est entrée dans la maison de Dieu qu'on a commencé à créer ces choses. Qui ont également créé la division dans le corps de Christ. Dans un Chronique chapitre 13, vous pouvez relever à partir du verset 9 au verset 12. 1 Chronique chapitre 9, à partir du verset 9 au verset 12, nous pouvons lire ceci. Lorsqu'il fut arrivé à l'aire de Kidon, Ouza étendit la main pour saisir l'âge, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Ouza. Et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Ouza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Ouza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérets Ouza. Verset 12, David eut peur de Dieu en ce jour-là. Amen. Nous voyons ici un certain Ouza qui avait posé un acte qui apparemment était un bon acte, à savoir empêcher que l'arche de l'alliance tombe, l'arche de Dieu tombe, parce que cette arche penchait et allait tomber. Et il a étendu sa main pour soutenir l'arche, pour l'empêcher de tomber. Et Dieu l'a frappé de mort. Et pourtant, ce qu'il avait posé comme acte, il n'y avait rien de méchant. Mais au contraire, il voulait empêcher que l'âge tombe. En fait, cet âge symbolisait la présence de Dieu lui-même au milieu de son peuple. Et Ouza, en étendant sa main pour empêcher que l'âge tombe, c'est comme s'il voulait empêcher Dieu de tomber. Non, Dieu ne peut pas tomber. Dieu ne peut pas tomber, on ne peut pas soutenir Dieu, on ne peut pas empêcher Dieu de tomber. Beaucoup des hommes pensent qu'ils peuvent soutenir Dieu, qui peuvent empêcher Dieu de tomber. C'est ainsi que les gens ont inventé des doctrines, créé beaucoup de choses qui semblent être bien aux yeux des hommes, en pensant rendre un service à Dieu. Non, on ne peut pas aider Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans Jérémie, chapitre 51, le verset 6, mais avant de lire Jérémie 51 à partir du verset 6. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13. Nous pouvons lire ceci. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dit des hommes, moi le fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Nous voyons comment Jésus apprécie l'apôtre Pierre ici parce qu'il avait donné une réponse. Et Jésus précise bien que cette réponse qu'il a donnée ne vient pas de lui-même. C'est par une révélation. Et à partir du verset 21 maintenant, nous lisons, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Nous voyons Pierre ici, qui plus haut donne une réponse, qui est appréciée par le Seigneur Jésus. Et Jésus dit bien que cette réponse-là, c'est une inspiration divine, cela vient par révélation. Mais plus bas, Jésus dit qu'il va monter à Jérusalem, on va l'arrêter, on va se moquer de lui, il va vraiment souffrir, il va même mourir, mais trois jours après, il va ressusciter. Le même Pierre, qui avait donné une réponse inspirée de Dieu, va le reprendre en disant, ce n'est pas la volonté de Dieu que cela t'arrive. Et à Jésus de répondre, arrête-moi Satan, car tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors que ce que Pierre avait dit, en réalité, il n'y avait rien de méchant. Lui, il se disait en lui-même que non, Jésus que je connais, si puissant, non, on ne peut pas l'arrêter quand même. On ne peut pas se moquer de lui, on ne peut pas le crucifier non plus. Il ne peut pas non plus mourir comme ça. C'était des bonnes pensées, mais arrêté, il était très très loin de la volonté de Dieu. Donc vous pouvez avoir des très bonnes pensées même, mais être très très loin de la volonté de Dieu. Et ce que nous constatons dans les systèmes religieux, les gens ont des bonnes pensées. Les gens mettent des choses en place qui sont des pensées philosophiques, des pensées théologiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et puisque ça a l'air de marcher, ils se disent que peut-être Dieu est d'accord. Non, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante, nous dit la Bible. Donc tant que quelque chose n'est pas soutenu par la sainte parole de Dieu vivant, Dieu n'y est pas. Parce que nous ne pouvons pas ajouter ni retrancher quoi que ce soit en ce qui concerne les choses de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc c'était pour vous dire que les fausses doctrines ne sont pas forcément ce qui est mauvais. Ça peut être apparemment bien, mais pas la volonté de Dieu. Nous allons lire maintenant dans Jérémie 51, le verset 6. Nous sommes dans Jérémie chapitre 51, le verset 6, où il est écrit. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Amen. La Bible nous dit ici que Dieu va rendre un jour à chacun selon ses œuvres, et particulièrement à Babylone. Nous avons vu que l'origine des systèmes religieux vient de Babylone, Babel, confusion. Et nous allons retourner à ce texte, parce que c'est très très important. Nous sommes dans Genèse chapitre 11, qui dit ceci, à partir du verset 3, il se dit l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques, cuissons-le au feu. Et la brique les servit des pierres, et le bitume les servit des ciments. Il dit encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons les langages, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Verset 8, et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre, et ils cessaient de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Lorsqu'on lit cette portion des Saintes Écritures, on voit les hommes qui avaient un projet, une ambition, se faire un nom et surtout bâtir une tour dont le sommet va toucher le ciel. Et Dieu va intervenir puissamment pour les confondre afin de les disperser sur la surface de la terre. Ça veut dire que le projet qu'ils avaient était sérieux. C'était un esprit de rébellion. Par exemple, Dieu avait dit à Adam et Ève, allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais eux, ils avaient dit, non, ne dispersons pas. Formons un, restons ici sur place. Et c'est ce qui caractérise les systèmes religieux. Ils veulent être toujours nombreux en un seul endroit. Construire des gros temples, des cathédrales, pas possible, qui peuvent contenir des milliers de personnes. Alors que Dieu veut qu'il y ait des petites assemblées vivantes dispersées dans les quartiers, comme la lumière pour éclairer les hommes. Mais les hommes ont toujours des projets dans le sens de se rassembler étant tellement nombreux et ils peuvent être fiers. Et c'est le piège dans lequel l'église naissante a failli tomber dedans jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ intervienne. La Bible nous dit que lorsque Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, il y a eu au moins 3000 personnes qui se sont converties ce jour. Et ils ont été baptisés ce même jour. Et la Bible nous dit que le nombre des disciples ne faisait que s'augmenter, de 4000, 5000, ainsi de suite. Et ils étaient tous à Jérusalem. Et ils étaient contents, ils formaient un. Ils voulaient déjà bâtir une très grande église, des milliers de membres. Mais, qu'est-ce que la Bible va nous dire? Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. À partir du premier verset, il est écrit ceci. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersa dans les contrées de la Judée, de la Samarie. Ici, là, la Bible nous dit que, à un moment donné, Dieu a permis qu'il y ait une très grande persécution à Jérusalem. Et tous les chrétiens se sont dispersés, si bien qu'il ne restait que les apôtres. Imaginez une église qui avait déjà plus de 3000, 4000, 5000, 6000 membres. Et Dieu ne voulait pas qu'ils se rassemblent en un seul endroit pour se vanter d'avoir la plus grande église. Et ainsi, il a permis qu'il y ait une persécution qui les a dispersés tous. Et il ne restait que les 12 apôtres à Jérusalem. Et pendant qu'ils se dispersaient, chacun de son côté prêchait l'évangile, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. C'est ainsi que l'unique Éthiopien va écouter l'évangile de la bouche de Philippe. Et l'unique Éthiopien va rentrer en Afrique avec l'évangile. Et s'ils avaient été toujours rassemblés en un seul endroit à Jérusalem, cet unique Éthiopien n'aurait jamais écouté l'évangile. Parce que c'est dans le désert qu'il a écouté l'évangile, qu'il a été prêché par Philippe l'évangéliste. Et l'unique Éthiopien est rentré en Afrique avec l'évangile. Et tiens, dit en passant que ce ne sont pas les blancs qui ont amené l'évangile en Afrique. Avant qu'ils ne viennent, une partie de l'Afrique avait été déjà évangélisée, particulièrement l'Éthiopie. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 18, à partir du premier verset au verset 5. Apocalypse chapitre 18, à partir du premier verset au verset 5. Il est écrit ceci. Je vais lire pour nous tous. Une fois de plus, relever ces versets et après, relire tranquillement. Il est écrit. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Dans cette portion de Sainte Écriture, la Bible nous dit ceci. Apocalypse chapitre 18. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Dieu s'adresse ici à son peuple. Comment est-ce que cela est arrivé que le peuple de Dieu se retrouve en captivité à Babylone? Ça veut dire que vous pouvez être vraiment un enfant de Dieu et être dans un faux milieu, dans une mauvaise église, dans une mauvaise assemblée. Vous pouvez être un vrai enfant de Dieu, né de Dieu, aimant Dieu, aimant la vérité, mais malgré tout, vous vous retrouvez en captivité dans un milieu et dans un système religieux qui ne vient pas de Dieu et qui ne glorifie pas Dieu. Et Dieu vous demande de sortir. Si vous avez des oreilles pour entendre, il faut entendre. Et Dieu a décidé de juger tout ce qui ne vient pas de lui. Jésus avait dit que tout ce qui n'a pas été planté par Dieu sera arraché. Donc tous les systèmes qui existent, qui prospèrent même, mais qui n'ont pas été plantés par Dieu, vont disparaître le jour du jugement. Et je le disais déjà la dernière fois qu'un jour beaucoup vont se rendre compte qu'ils ont été trompés, bernés durant toute leur vie, en servant des systèmes religieux qui en réalité ne servaient pas Dieu en esprit et en vérité. Parce que beaucoup croient que leur avenir et leur salut se trouve dans un système religieux, dans une religion, pas du tout. Notre avenir et notre salut, c'est tout simplement en Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ. Et dans 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du premier verset au verset 12, 2 Thessaloniciens relevés, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du premier verset au verset 12. C'est une longue lecture. Je vais juste lire à partir du verset 9 où il est écrit ceci. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Écoutez-moi très très bien. Dieu dit que ceux qui ne veulent pas croire à la vérité pour être sauvés s'exposent à l'égarement. Dieu lui-même va se charger de leur envoyer une puissance d'égarement. Et ils vont croire les faussetés, les fausses doctrines, les miracles mensongers qu'on va faire pour les séduire, pour les attirer. Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pour dire que lorsque vous écoutez la vérité, laissez que cette vérité puisse vous affranchir. Sinon, vous êtes en train de courir un grand risque. Dieu dit que lorsque vous n'avez pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, vous risquerez de croire au mensonge. Et en croyant au mensonge, vous allez vous retrouver avec le diable qui est le père du mensonge. Après le jugement dernier, dans les temps ardents de feu. Nous avons vu que Dieu a semé la confusion dans Genèse chapitre 11 en dispersant ces gens qui avaient un projet et une ambition qui n'avaient rien à voir avec sa parole. C'est pour vous dire que quoi? Maintenant, ce que je vais dire est prophétique. Dieu va semer la confusion dans tous ces systèmes religieux qui ne viennent pas de Dieu. Oui, Dieu va permettre que beaucoup des choses qui se faisaient même en cachette dans ces systèmes religieux soient révélées au grand jour. Ainsi, tous ceux qui sont dans ces systèmes religieux, qui sont les véritables enfants de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu, vont voir qu'ils se sont trompés. Et Dieu va sortir ces vrais enfants, ces vrais serviteurs de ces systèmes pervers et corrompus, afin qu'ils puissent aller servir Dieu en espérant en vérité selon sa sainte parole. Donc je proclame, en accord avec la sainte parole de Dieu, que d'ici quelques temps vous allez constater la confusion qui va s'opérer dans beaucoup des systèmes religieux qui ne viennent pas de Dieu. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Très chers auditeurs, très chers auditrices, vous écoutez l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais surtout, la vérité qui affranchi. Restez tout simplement à l'écoute. Connaissez la vérité vous affranchira. Comme promis, nous allons parler des dîmes et des offrandes. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et nous allons commencer par la dîme. Et j'étais déjà à préciser que la dîme, c'était une loi sociale juive. Oui, la dîme était une loi sociale juive. Et pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il y avait plusieurs sortes de lois. Beaucoup savent qu'il y a les 10 commandements. Mais laissez-moi vous dire que les 10 commandements, ce n'était que le résumé de la loi. Il y avait des centaines de lois dans l'Ancien Testament. Et ces lois étaient subdivisées au moins en 3 parties. Il y avait par exemple les lois cérémonielles. Qu'est-ce que j'entends par loi cérémonielle? Dans la loi cérémonielle, il y avait les sacrifices de la manière dont on devait servir dans le temple, le sanctuaire ou le tabernacle. D'ailleurs, nous pouvons par exemple lire cela dans Hébreux chapitre 9, à partir du premier verset au verset 10. Une longue lecture pouvait relever et prendre le temps de lire. Donc tout ce qui touchait le culte, les sacrifices et autres. Tout cela formait les lois cérémonielles. Et ces lois concernaient uniquement la nation d'Israël, étant donné que nous aujourd'hui, en tant qu'Église du Seigneur Jésus, Jésus-Christ s'étant donné à la croix, a remplacé tous les sacrifices. Par exemple, Jean 1, verset 29 nous dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices de quelque nature que ce soit. Malheureusement, il y a une religion qui continue à faire des sacrifices chaque année, mais les chrétiens n'ont plus besoin de faire des sacrifices parce que Jésus s'est déjà sacrifié pour eux. Et ceux qui continuent à faire des sacrifices n'auront jamais le salut offert par le Seigneur Jésus. Et vous également qui continuez à faire des sacrifices des moutons, des chèvres, des coqs et autres. En fait, ce n'est pas à Dieu que vous faites ces sacrifices. C'est tout simplement aux démons. Ce que déclare la Bible. Et il y avait aussi les lois morales. Les lois morales, nous pouvons lire cela dans Exode chapitre 20, à partir du premier verset au verset 17. Et aussi Lévitique chapitre 18. Qu'est-ce que j'entends par loi morale? En fait, la loi morale a toujours existé, même avant que Dieu ne donne la loi à Moïse. Ce sont ces lois qui sont inscrites dans le cœur de l'homme dès sa naissance. Et ces lois concernent toute personne sur cette terre. Par exemple, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Ce sont les lois morales. On n'a pas besoin d'apprendre à quelqu'un que le vol n'est pas bien. On n'a pas besoin de lire la Bible pour savoir que tuer n'est pas bien. Ce sont des lois morales et ces lois sont éternelles. Et il y avait également les lois sociales et civiles. Nous pouvons lire ces lois sociales et civiles dans Exode chapitre 21 à partir du premier verset au verset 36. Ce sont des longues lectures. Si Dieu le permet, nous allons lire. Mais je vous donne d'abord des références. Exode 21 à partir du verset 1er au verset 36. Et ces lois sociales et civiles concernaient la nation d'Israël. Comme toute nation sur la terre, la nation d'Israël avait également les lois sociales et civiles. Parce que Dieu ne voulait pas que ce peuple vive dans le désordre et l'anarchie. Et ainsi, il a donné les lois sociales et civiles. Comme notre pays, le Cameroun, a des lois sociales et civiles. Lorsqu'on fait la confusion entre ces lois, on puise des lois qui contenaient uniquement la nation d'Israël. Et on met cela sur le dos des chrétiens, on les enchaîne avec. Et la dîme faisait partie de la loi sociale d'Israël. Nous allons entrer dans les détails tout à l'heure si Dieu le permet. Je reprends. Il y avait au moins trois grandes sortes de lois sous l'ancienne alliance. Les lois cérémonielles, les lois morales, les lois sociales et civiles. Et la dîme faisait partie de la loi sociale juive. Qu'est-ce que c'est que la dîme? La dîme, c'est tout simplement le 1/10 de quelque chose. Et j'étais en passant que quand on parlait des dîmes et même des offrandes, c'était beaucoup plus en nature et non en argent. Et c'est déjà très très différent de ce que nous voyons de nos jours. On veut ramener tout à l'argent. Parce qu'on n'est plus là vraiment pour servir Dieu, mais beaucoup plus pour chercher de l'argent. Dans Hébreux chapitre 7, le verset 12, nous pouvons lire ceci. Hébreux chapitre 7, verset 12. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement des lois. La Bible nous dit que le sacerdoce étant changé, il y a un changement de loi. Donc les chrétiens sont sous une nouvelle alliance qui n'a rien à voir avec l'alliance juive. C'est pour cette raison qu'on parle des Nouveaux Testaments ou bien Nouvelle Alliance. La nation d'Israël était composée de Juifs, en particulier. Alors que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 5 au verset 6, et Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 9 au verset 10, que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est composée des hommes de toute langue, tout peuple, toute nation, toute tribu. C'est cet ensemble qui forme l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Église du Seigneur Jésus-Christ est très différente de la nation d'Israël ou la nation juive. Je veux dire qu'en ce qui concerne les dîmes, beaucoup ne le savent pas. Il y avait plusieurs sortes de dîmes en Israël. Beaucoup ne le savent pas. Et ce que nous allons voir, première sorte de dîme, c'était la dîme qui revenait aux Lévites. C'est-à-dire ceux-là qui travaillaient dans le temple ou bien dans le tabernacle, le sanctuaire. Par exemple, nous pouvons lire cela dans Nombre chapitre 18. Nous allons aller vraiment pas à pas pour que vous puissiez comprendre. Nombre chapitre 18 à partir du verset 21. Il est écrit ceci, que je vais lire pour nous tous. Je donne comme possession aux fils de Lévi toutes dîmes en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Oui, Dieu avait donné une dîme qui revenait, parce que j'ai disait tantôt qu'il y a quatre sortes de dîmes. Il y avait une dîme qui revenait aux Lévites pour le travail qu'ils faisaient. En fait, à cette époque, les Lévites étaient en même temps comme les fonctionnaires. Ils étaient en même temps comme les législateurs, ceux qui devaient veiller sur la loi. En fait, ils étaient un peu comme les fonctionnaires à cette époque. Et en tant que fonctionnaires, naturellement, et surtout parce qu'ils n'avaient pas eu les parts d'héritage, lorsqu'on a fait le partage de la terre promise, Dieu a décidé qu'une partie de la dîme leur revient pour le travail qu'ils font. Et en passant, dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de Lévites. De façon littérale. Parce que tous les chrétiens sont devenus des sacrificateurs. La Bible ne dit pas que le pasteur, le prêtre et le Lévite. Le Lévite, c'était une tribu parmi les 12 tribus d'Israël. Et ils étaient en même temps comme des fonctionnaires à cette époque. C'est pour cette raison que, de la même manière comme nos fonctionnaires sont payés, il devait également être rémunéré à partir de la dîme, qui était un impôt ou une taxe en quelque sorte. Il y avait également une deuxième sorte de dîme, toujours dans Nombre chapitre 18, à partir du verset 25. La Bible nous parle de la dîme de la dîme. Je vais lire rapidement. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites, et tu les diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Voilà, une dîme de la dîme. Donc les Lévites, après avoir reçu les dîmes, devaient prélever la dîme de la dîme. Et ils devaient remettre maintenant la dîme de la dîme aux sacrificateurs qui étaient exclusivement dans le temple. Et ceux qui veulent retourner à la loi, qui prélèvent la dîme, à qui est-ce que eux ils donnent la dîme de la dîme? À cette époque, il fallait donner la dîme de la dîme aux souverains sacrificateurs, par exemple comme Moïse ou Aaron. Qui est le souverain sacrificateur aujourd'hui? La Bible nous dit que c'est Jésus qui est notre souverain sacrificateur. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Et le souverain sacrificateur, c'est Jésus lui-même. Il y avait également une troisième sorte de dîme. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 14. À partir du verset 22 au verset 26. Notez. Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22 au verset 26, il est écrit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence et de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton moût, de ton huile, les premiers nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras toi et ta famille. Amen. Voilà une troisième sorte de dîme qu'il y avait en Israël. Une fois par an, une famille devait aller à un endroit précis que Dieu lui-même avait choisi et se réjouir. Et c'était une loi. Mais lorsqu'on parle de la dîme aujourd'hui, on ne fait jamais allusion à ces portions de Saintes Écritures. Parce que ça n'avantage pas ceux qui prêchent la dîme ou qui récupèrent les dîmes. C'était une loi. Dieu avait ordonné que chaque année, chaque Israélite aille dans un endroit précis avec la dîme qu'il a pu garder pendant un an pour se réjouir lui avec sa famille. Et c'était une loi. Il y avait également une quatrième sorte de dîme. Nous sommes tous dans Deutéronome chapitre 14, cette fois-ci au verset 28 et 29. Il est écrit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année. Et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni pas ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils le mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Dans cette portion de l'Écriture, la Bible nous dit qu'en Israël, il y avait également cette quatrième sorte de dîme qui était la dîme de la troisième année qui revenait aux orphelins, aux veuves, aux étrangers en particulier. Mais ceux qui prêchent la dîme, qui exigent la dîme de nos jours, alors que nous ne sommes plus sous cette alliance, est-ce qu'ils ont déjà enseigné cette portion de Sainte Écriture? À savoir, cette dîme qui revient, ou bien qui devait revenir selon la loi juive, aux orphelins, aux veuves, aux étrangers. À partir d'ici, nous voyons déjà que la dîme était une loi sociale, concernant uniquement la nation juive. Je dis bien loi sociale. Dans la mesure où cette dîme servait d'impôt Et à partir de là, les Lévites qui étaient en même temps comme les fonctionnaires de l'époque devaient être rémunérés. Cette loi sur la dîme concernait également les orphelins, les veuves. Aujourd'hui, on peut parler de sécurité sociale. En fait, à cette époque, il n'y avait pas tout cela, la sécurité sociale ou le ministère des Affaires sociales comme nous en avons chez nous. Et Dieu a choisi la loi sur la dîme, parce que la dîme c'était un impôt, c'était une taxe, c'était une loi. À partir de là, Dieu était sûr que les orphelins, les veuves et les étrangers ne devaient pas être délaissés. Aujourd'hui, les choses ont tellement changé. Beaucoup de nations se sont organisées. Il y a la sécurité sociale, il y a les affaires sociales qui gèrent et organisent ces choses. En fait, c'était déjà pour vous montrer, à la lumière des Écritures, qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut puiser dans l'ancienne alliance et on met cela sur le dos des chrétiens alors qu'ils ne sont plus obligés de pratiquer cela parce que c'était juste une loi sociale concernant la nation juive. Et beaucoup pensent qu'ils sont bénis parce qu'ils payaient la dîme. Détrompez-vous. Personne ne peut être béni parce que elle a donné la dîme. Oui, il n'y a aucune personne qui peut être bénie parce qu'elle a donné la dîme. Parce que déjà, la loi concernant la dîme dans la Bible ne consistait pas tout simplement à aller donner le 1 dixième à l'église comme ça se pratique de nos jours. C'était bien organisé dans la nation d'Israël. Et lorsque vous voulez retourner dans les choses qui concernaient la nation juive, vous êtes obligé de tout pratiquer. Beaucoup ne le savent pas. Sinon, vous êtes sous la malédiction. Le Seigneur le permettant, nous allons lire les versets préférés de ceux qui pêchent sur la dîme, à savoir Malachie, qui parle d'amener la dîme dans la maison du trésor. Nous allons étudier cela de très près. Et nous allons voir beaucoup de choses qui ne sont pas enseignées comme cela se doit. Dans Galates chapitre 3, le verset 10, il est écrit ceci. En Galates chapitre 3, le verset 10, il est écrit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Amen, la Bible est claire. Tous ceux qui veulent rentrer dans la loi juive pour pratiquer certaines choses sont tenus de tout pratiquer. Sinon, la Bible dit qu'ils sont sous la malédiction, même s'ils ne le savent pas. Dans les lois sociales et civil concernant la nation d'Israël, les lois cérémonielles ne concernent pas les chrétiens. Les seules lois qui restent en vigueur pour les chrétiens, ce sont les lois morales. Et le Seigneur permettant, nous allons lire ce que c'est que les lois morales. C'était vraiment détaillé. Au moins un chapitre est consacré aux lois morales dans la Bible concernant la loi. Vous qui pensez que vous êtes bénis parce que vous payez la dîme, est-ce que vous pratiquez vraiment ce qui est écrit? Ce n'est pas parce qu'on vous a dit qu'en donnant votre dîme à l'église, vous serez bénis que vous pensez que ce n'est que ça qui est écrit dans la Bible. Mais malheureusement, beaucoup des pasteurs et autres continuent à prêcher la dîme. Beaucoup connaissent même la vérité concernant la dîme, mais décident de maintenir le peuple de Dieu dans les ténèbres, dans le mensonge. Parce que ces personnes, ces pasteurs et autres, prêtres qui jouissent et profitent de cette dîme, savent que, pour ceux qui connaissent la vérité, parce que je sais que beaucoup ne connaissent pas la vérité, ceux qui connaissent la vérité savent que s'ils prêchent la vérité, peut-être leur argent va diminuer, leur salaire va diminuer, ou bien l'argent qu'ils récoltent va diminuer, ce qui est faux. Parce que si la Bible ne recommande pas la pratique de la dîme, elle recommande les offrandes, les dons joyeux, la libéralité. Il y a des versets innombrables dans le Nouveau Testament dans ce sens. Très chers auditeurs, très chers auditrices, le temps est encore chez nous. Nous allons continuer prochainement concernant la dîme, parce que je sais que c'est un sujet vraiment très très intéressant, la dîme et les offrandes. Et j'espère que par la grâce de Dieu, nous allons aborder terre à terre ce sujet et vous serez énormément édifié et éclairé. Et vous serez également béni. Parce que c'est la vérité qui affranchit, qui éclaire, et c'est la vérité seule qui bénit. Et non les fausses doctrines, et non les enseignements des hommes. Nous sommes presque à la fin de notre émission de ce jour, et avant de nous séparer, il y a ce message que j'ai reçu. Il n'y a pas de questions, tout simplement quelques versets. Et dans Exode chapitre 23, verset 15, je ne sais pas qui a envoyé ce message. En fait, ce verset nous dit, nous sommes dans Exode chapitre 23, verset 15, « Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Au temps fixé dans le mois de Pi, tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'homme ne se présentera point à vide devant ma face. » Oui, je ne sais pas quelle est la préoccupation de cet auditeur. De toute façon, puisque nous sommes en train de parler des dîmes, des offrandes et même des fêtes, nous allons voir à la lumière sainte écriture que même les fêtes religieuses n'ont plus de valeur de façon littérale comme dans l'ancienne alliance. Toutes ces choses ont une portée désormais spirituelle. D'ailleurs, nous allons revenir en détail sur toutes les fêtes qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Et nous allons parler également des offrandes. Donc, attention, quand j'ai dit que beaucoup ont transformé l'église du Seigneur Jésus-Christ en une entreprise commerciale, quand j'ai dit qu'on prêche sur la dîme, alors qu'on ne veut plus prêcher sur la dîme, ça ne veut pas dire que le chrétien ne doit pas soutenir l'œuvre de Dieu, ni donner son argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu, ou même pour aider ceux qui sont dans le besoin, ou même pour soutenir le vrai ministère. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. D'ailleurs, puisque nous parlons des dîmes et surtout des offrandes, nous allons y revenir en détail. Et nous allons voir comment cela doit se passer à la lumière des Saintes Écritures, selon la vérité biblique. Je vous encourage tout simplement à être à l'écoute la prochaine fois, et je crois que vous ne serez pas déçus. Nous bénissons le Très-Haut pour ce moment, et que toute la gloire lui revienne, et que, par la grâce de Dieu, nous puissions nous retrouver, et je l'espère très bien, parce que ce n'est que par la grâce de Dieu que toute chose est possible. À lui soit la gloire, maintenant, et pour des siècles et des siècles. Mais je sais aussi à préciser que beaucoup de mes messages existent sur des brochures, sur des CD audio, sur des VCD et même des DVD. Et tout cela est distribué gratuitement. Contactez-moi tout simplement et tout le problème est résolu. À bientôt et amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot, pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros des 00237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NGENDJI. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra
libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, jamais, ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.